Tov, Erev Tov Lekulam, et bienvenue, Be'ezrat Hashem. Nous allons continuer notre développement concernant le livre Oroth de notre grand maître, le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et nous devons à chaque fois rappeler que le thème principal de cette Torah, j'allais dire le sens même du développement de cette Torah, c'est la vision complète de la vie. On appelle ça dans le langage de nos sages, ha'achdut ha'kolelet, l'unicité complète. Il n'y a donc aucune partie dans toute la création qui soit en dehors de ce système. Et c'est seulement dans cette vision-là, complète, qu'on peut réellement étudier la Torah sérieusement. Toute étude qui met de côté certains éléments n'est pas en réalité saine parce qu'elle ne prend pas en compte la totalité. De la même manière que le Créateur a créé l'âme et le corps, on ne peut pas étudier seulement au niveau de l'âme. Vous comprenez bien, quand j'étudie la Torah, je dois utiliser en fait l'ensemble de mes capacités, que ce soit le niveau intellectuel, que ce soit le niveau du ressenti, que ce soit le niveau de tous mes sens, jusqu'au monde de l'action. Si l'une de mes parties ne joue pas le rôle d'associé, eh bien, cette partie, en réalité, ne va pas seulement manquer à mon étude, mais elle aura une vision erronée, puisque fractale, et non pas une vision complète. On peut comprendre ça très facilement dans la médecine. Si un médecin n'arrive pas à entendre et à entrevoir l'entité du patient, et il ne s'occupe que de la partie entre guillemets malade, eh bien, ce n'est pas une véritable médecine. Il va soigner peut-être apparemment la blessure en question, le mal en question, mais il pourra et négliger le reste, et peut-être même faire du dégât dans tout le reste du corps. Donc une prise en compte de la totalité, de l'entièreté, j'allais dire, est nécessaire dans cette étude.
Ça veut dire qu'un homme qui étudie une Gemara, s'il est en Israël, une étude...
Je ne parle pas que de ça.
Elle est erronée d'après ce que vous dites. Elle est peut-être erronée.
Les sages nous répondent, je vais vous répondre par la réponse de nos sages. En Torah que Torah Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme celle de la terre d'Israël parce qu'elle prend en compte justement tous les éléments de ce monde, y compris le monde de la matière, et non pas seulement le monde de l'esprit. Alors, je n'ai pas précisé ce que vous venez de dire au niveau du lieu de l'étude, je parle plutôt au niveau de la source même de mon étude. Est-ce que la source de mon étude vient du haut vers le bas seulement, ou est-ce qu'elle prend en compte tous les éléments de ce monde aussi? Étant donné que le Créateur est le Créateur de tout et du tout, il faut prendre tout en considération. Et plus, comme en physique, ma formule est large et elle englobe la totalité des choses, plus elle est bonne. Si j'ai une formule qui ne s'occupe que d'un petit détail, qui est vrai seulement dans certains cas, ce n'est pas encore une formule englobante avec laquelle je peux comprendre une vision de vie. Plus ma formule touche tous les éléments, plus elle est vraie, plus elle est authentique, et plus elle se rapproche en réalité de ce que le divin cherche à nous faire passer. Alors, on va continuer pour l'instant dans le développement du Rav Harlap et immédiatement après, on reprend le Rav Kook. Ça, c'était la fin de l'autre feuille. Aïstaklut Arazi, la vision des secrets. Le mot Istaklut ici, c'est du bas vers le haut. En hébreu, les Istakel, c'est différent que les Habit. Quand vous dites en hébreu, les Habit, c'est aussi regarder, c'est toujours du haut vers le bas. Toujours. Ce sont des règles grammaticales en hébreu. Si on ne les connaît pas, on peut faire des erreurs. Par exemple, lorsque Akadosh Baruch Hu va sortir Abraham de son contexte matériel limité par les astres, par les étoiles, le texte de la Torah dit « Vayotse oto hachutsa » il a sorti dehors. Alors, dans le premier sens du texte, c'est qu'il a sorti de sa tente. Mais immédiatement, les sages nous font remarquer « Hotse oto, hotsi oto, mi istagnenu »« Se mi istagnenu tchelcha » Sors, je te demande de sortir de la limite que les astres t'ont donnée lors de ta naissance. Autrement dit, chacun de nous est limité par certaines données de base, et là, ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est qu'il a sorti Abraham de ses données. Exemple, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfants. À partir du moment où il sort de ce contexte-là, il peut avoir des enfants et il en aura. Et le terme qui est juste après, Vayotse oto achutra, Vayomerlo, Habet na hashamaima. Le Habit. Il lui dit, regarde le ciel. Étant donné qu'on connaît maintenant la grammaire de l'éhabit, de la habata, et je viens de vous dire que c'est du haut vers le bas, ça veut dire qu'en réalité, lorsque Dieu a fait sortir Abraham, il n'a pas fait sortir de sa tente, il a hissé au-dessus des astres, à tel point que lorsque Abraham regardait le ciel, il le regardait du haut vers le bas. Extraordinaire. Habetna shamaima, vous, dans un texte simple, vous auriez dit, il lève les yeux vers le ciel. Habetna hashamaima. Or, lorsqu'on connaît ce secret, que les habits, c'est du haut vers le bas, eh bien, Abraham a regardé le ciel du haut vers le bas, comme l'Éternel pourrait regarder le ciel. Ce qui veut nous dire qu'Abraham est sorti au-delà des lois naturelles restrictives et limitantes. Et il a dépassé en fait ce qui, en élargissant l'idée, veut dire que le peuple qui va sortir de cet homme va être capable d'en faire autant. Donc il n'y a aucune limite naturelle qui puisse bloquer définitivement le peuple d'Israël. Si on comprenait la notion de l'Égypte dans son véritable sens, on comprendrait que sortir d'Égypte, c'est exactement ça. C'est sortir des lois de la nature. Ce n'est pas par hasard que le roi d'Égypte, le dieu d'Égypte, c'est le bélier qui représente le premier des astres. Donc sortir d'Égypte, c'est se séparer, c'est surpasser, c'est dépasser l'astrologie avec toutes ses contraintes. Chose qui existe. Mais nous, en tant que peuple d'Israël, nous avons cette capacité de base, intrinsèque, de sortir, de dépasser complètement. Et donc le Rav nous dit maintenant, « Ha'istaklut harazit » Maintenant, ce n'est pas une habata, c'est une histaklut. Celle-ci est du bas vers le haut. C'est-à-dire que je dois faire un effort de hisser ma vue, d'augmenter le niveau de mon regard. Vaïssa Abraham et Einav, Vayar et Hamakom Merachok. Abraham a levé les yeux pour voir l'endroit de loin. Alors, imaginez-vous, vous croyez que Abraham a fait ça? Pas du tout. C'est qu'il a élevé son regard. Au lieu de regarder au premier degré, comme on a l'habitude, naturellement, eh bien, il est capable de faire lever son regard jusqu'au point de voir au loin, ce qui veut dire savoir au présent, voir les résultats de ce que je suis en train de faire maintenant, demain et après-demain. Comme si j'étais prophète. Et la prophétie, je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, ce n'est pas une sorcellerie. La prophétie, c'est savoir les tenants et les aboutissants, les causes et les résultats. Encore une fois, voir une image globale telle que l'Éternel nous a façonné. Je reprends le Talmud dans le traité de Nida à la page 30. Le bébé, qui est encore un fœtus dans le ventre de sa mère, voit Misofa Olam ve'atsofa Olam, de la fin du monde, de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne parle pas d'une vision où il voit avec ses yeux. Ce n'est pas ça, vous comprenez très bien. C'est qu'en réalité, il a une capacité de voir déjà à la source le résultat. Ce n'est pas par hasard que le bébé est comme un carnet replié, nous dit la Gemara là-bas, à la même page, où ses pieds touchent sa tête. Et vous comprenez bien l'image maintenant. Parce que lorsque le bébé a ses pieds, qui est en réalité la marche, la démarche de sa vie, eh bien c'est au même niveau que sa tête, que sa pensée initiale. Si on arrivait à faire ça, lorsqu'on se détend, lorsqu'on sort de ce ventre, eh bien notre tête est tellement haute par rapport à nos pieds qu'il y a beaucoup de difficultés à faire le lien entre notre tête et notre démarche dans la vie. Et c'est ce qui nous fait tomber à tous, ce décalage entre la source et l'action qui va suivre cette source. Il y a, comme par hasard, une perte dans ce cheminement. Et si on arrivait à être dans ma démarche fidèle à ce que j'avais dans ma pensée, en hébreu, sauf ma'asé bemarchavatrila, là, en réalité, je suis fidèle, je suis né-éman, donc je suis rempli de émouna. La émouna, c'est cette fidélité entre la première pensée et la fin de l'acte. Et puisque c'est dans le ventre de la maman que nous recevons cela en tant que fœtus, ben c'est tout simplement parce que les sages viennent nous enseigner que c'est exactement la qualité que nous avons tous, naturellement, même avant toute éducation. Seulement, on ne l'utilise pas. Et il y a une différence énorme entre la pensée et l'acte, à tel point que ce décalage est un grand trou qu'on appelle en hébreu « gay ». « Gay » veut dire « comme les abîmes ». Et ce qui a donné naissance au mot « gay hennom ». L'enfer, en réalité, ce n'est pas une notion de lieu où on brûle les gens, c'est tout simplement ce grand décalage entre ce que tu étais dans la source et ce que tu vis réellement dans ta vie. Un jour, on te mettra face à ta véritable source. C'est ta source qui te jugera. C'est ta capacité de base qui te jugera. Tu seras jugé selon ce que tu es à la base et comment tu as vécu réellement par rapport à cette source. Et plus tu te rapproches de cette source, plus tu deviens délicat, sensible. Et c'est exactement l'inverse du Gehenom, c'est Adinut. Eden, la délicatesse, le jardin d'Eden. Gan Eden, encore une fois, n'est pas un lieu où il y a des fleurs et des arbres. C'est tout simplement lorsque le corps et l'âme sont tellement délicats l'un envers l'autre qu'ils se respectent. Gan n'est pas un jardin, c'est les initiales de Gouf, Neshama. Le corps et l'âme, Eden, dans une délicatesse totale, dans une sensibilité extrême. C'est pas par hasard que ceux qui savent plus souffrent plus. Marbe da'at, marbe mach'ov. Plus tu as la connaissance qui augmente, plus ta souffrance augmente. Parce que tu t'aperçois de plus en plus des décalages. Et tu vis ces décalages avec souffrance.
Pourquoi lorsque le bébé est sain, son cœur est à zéro. On ne peut pas avoir un petit acquis en plus.
Le compteur n'est pas à zéro, il est tout simplement mis en veille. Le fait d'avoir vécu ce qu'on a vécu dans le ventre de la mère, ça ne disparaît jamais. C'est une mémoire profonde qu'il faut tout simplement sortir et
révéler,
appliquer, mettre en marche. C'est tout. D'ailleurs, on ne vous demandera jamais d'être ce que vous n'êtes pas. Vous comprenez bien, tout ce qu'on nous demande dans la Torah, c'est tout simplement d'être nous-mêmes. Mais il est où ce soi? Il est où ce nous-mêmes? C'est ce que Abraham tente de faire toute sa vie. Lech lecha, va vers toi. Pour aller vers toi, il se trouve que tu dois aller en tant qu'homme et femme d'Israël sur la terre d'Israël. C'est là où tu vas vers toi. Parce que quand tu restes à l'extérieur, tu as beau étudier, tu ne vas pas vers toi. Tu as l'impression même de monter vers Dieu, mais c'est faux. Tu ne peux pas faire autrement, parce que le même maître du monde qui nous a donné cette valeur de Torah, c'est lui qui nous demande de venir ici. C'est pas une invention des sionistes, vous comprenez bien. C'est une vision divine de ce que le peuple d'Israël doit être toute sa vie. C'est en long, en large, toute la Torah, qui n'arrête pas de nous répéter, c'est ici que ça se passe.
Ça devrait être plus facile, alors,
parce que... Mais étant donné que tu viens et tu te rapproches de ton essence, eh bien les délicatesses, les petits finishes sont beaucoup plus importants. C'est facile de commencer une maison. Quand vous voyez le début d'une construction, vous avez l'impression que l'immeuble va se terminer en 2 mois. Ils ont déjà tout monté. Et puis après, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ça dure 6 mois, 9 mois, 10 mois. Mais c'est exactement pareil. Il faut faire très attention. Quand vous êtes dans un chemin qui vous paraît être facile, c'est pas forcé qu'il soit vrai. Et encore une fois, les sages nous donnent une preuve. Eret Israël niknet beisurim. Si la terre d'Israël ne s'acquiert pas chez toi avec difficulté, ça veut dire que tu n'es pas en train de l'acquérir réellement. La Torah, pareil. Si elle ne s'acquiert pas parce que tu pleures, parce que tu es vrai dans ton étude, ne crois pas que ça va rentrer comme ça. Et le Olam Haba, c'est pareil, la même notion. 3 degrés s'acquiert avec difficulté. Pourquoi? Pourquoi quand je veux sortir d'Égypte, tous les problèmes commencent? Pourquoi quand j'étais en Égypte, tout allait relativement bien, à tel point que quand je suis sorti d'Égypte, je n'arrête pas de languir l'Égypte, comme ceux qui voulaient retourner. Nitenarosh venashuva mitzraima. Dans quelle situation on vit? Donc il faut faire très attention, ce sont des notions délicates, et donc il faut ce qu'on appelle un da'at. Et donc, haïstaklut harazit yoda'at, 3e mot. Quand tu lis les secrets, quand tu pénètres ces secrets, eh bien, yoda'at, tu es déjà dans le da'at, tu es déjà dans la connexion. Pas dans la connaissance, dans le premier sens du terme connaissance, mais dans la connexion des éléments. Quand tu sais faire une connexion entre 2 éléments de ce monde, entre 2 incidents, ça s'appelle une co-incidence. La coïncidence, c'est tout simplement de faire le lien entre les éléments. Dans le corps humain, ce da'at, c'est ce qui est représentant de la traduction de mes pensées en actes. Ce n'est pas par hasard que ça se trouve là où Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu, Heralo Kesher Shel Tfilin. Il lui a montré le nœud du lien. Tfilin, encore une fois, vous pouvez traduire par phylactère, ça ne veut rien dire. Tfilin, c'est au pluriel, au singulier, tfila. Est-ce que vous le savez? Je ne peux pas dire tfilin chez Yad et tfilin chez le Roche. Je sais que tout le monde fait cette erreur. On dit Tfila chez Yad et Tfila chez le Roche. Les deux sont des Tfilim. Vous comprenez? Or, Tfila ne veut pas dire prière, mais veut dire se rattacher, se relier, l'île pote. Donc il y a ici tout un travail énorme de prise de conscience de cette connexion. Et quiconque a un da'at dans sa vie, nous dit la Gemara, da'at kanita machasarta. Si tu as le da'at dans ta vie, tu ne manques plus de rien. Aval da'at chasarta makanita. Si tu n'as pas de da'at, traduction maintenant, connexion entre le haut et le bas, entre tes idées et tes actes, entre tes pensées et ton vécu, ça c'est le da'at. Et le Zohar de nous dire, c'est ça qui était ton exil d'Égypte. Ben Mitzrayim, je vous cite le Zohar, Hada'at Haïta Bagalut. Autrement dit, ceux qui vivaient en Égypte, qu'est-ce qu'il leur manquait en fait? Les jambes. Ils avaient des pensées, mais ils n'arrivaient pas à réaliser leurs pensées. Ce n'est pas par hasard que le Ari Akadosh, le Arizal, nous dit que Mitzrayim, c'est le cou, Tsavar. C'est la partie étroite, Tsar. Autrement dit, tu es dans un monde circulaire au niveau de ta tête, tes pensées tournent, 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 et elles cherchent une droite. Et tu ne la trouves pas, cette droite. Parce que tu n'arrives pas à traverser ce Meitzar Hadgaron. Donc tu es pris à la gorge. Et si vous voulez sortir d'Égypte, eh bien il faut traverser cette gorge et arriver aux éléments qui ont déjà un sens, qui ont déjà une rectiligne, un yosher. Sinon vous restez dans le cercle de vos pensées. Très dangereux. Très dangereux. Ce cercle de pensées, c'est la faute la plus grave qui puisse exister pour un homme. On appelle ça « chet ha'egel », la faute du cercle, de tourner en rond dans sa vie. « Igoul »,« egel », encore une fois en français, la faute du vaudor. Ça ne veut rien dire. Comment est-ce qu'on peut étudier la Torah dans une autre langue que sa source, quand vous comprenez ses secrets? Quel rapport avec la faute du vaudor? Je croyais que c'était des idiots de fabriquer un veau en or et de croire que c'est le Dieu d'Israël. Non, mais BMS. Et qu'on appelle cette génération Dor Dea.
Il y a une punition.
Il y a une punition. Qu'est-ce que c'est une punition? C'est pas une punition. C'est... Non, ce n'est pas une sanction. C'est un résultat. Il faut que vous arrêtiez de penser comme ça. C'est tout simplement une conséquence immédiate de ça, c'est tout. C'est pas Dieu punissant, Dieu punisseur, le père fouettard qui se trouve dans son sommet, qui frappe les gens qui ne font pas sa volonté. Il faut arrêter avec ça. Il faut comprendre qu'en réalité, chaque élément dans ce monde, il a une conséquence. Tu ne comprends pas que je veux te faire sortir de cette situation pour t'amener sur la terre d'Israël, parce que c'est là-bas en tant que nation que tu vas commencer à raconter mes valeurs divines. Mais il y a une conséquence à tout ça, c'est pas que je te punis, c'est que tu ne vis pas selon ton identité, donc tu t'auto-punis. Tu n'as pas besoin de moi pour te punir. C'est l'homme qui se détruit ou l'homme qui se construit selon les règles qui correspondent à sa nature. Donc la Torah nous demande qu'une seule chose, de redevenir naturel selon notre véritable nature. C'est ça la Torah. C'est pas d'appliquer des actes religieux qui font plaisir à une poupée qui se trouve dans le ciel. Chas v'shalom, c'est de la avodah zara tout ça. Vous vous rendez compte comment vous rendez nains les valeurs divines? C'est ça que représente l'infini béni soit-il. Chas v'chalila. L'infini béni soit-il par sa bonté veut que chacun de ces éléments créateurs dans ce monde créé vive sa nature vraie. Pourquoi le judaïsme ne va pas convertir les Japonais, les Chinois? Pourquoi on n'est pas là à convertir des Africains? Mais tout simplement parce que, au contraire, je dois pousser un Africain à être Africain et à vivre sa véritable nature parce que c'est là-bas où il excelle. Mais si je le dévoie, je le sors de son être, je le sors de sa voix, Chas v'Shalom, c'est une stia, une déviation. À l'infinitif, Satan. C'est ça le Satan. Encore des notions inconnues. Quand tu ne vis pas selon ce que tu es, c'est ça le Satan. T'as pas besoin d'un ange avec une fourche du Club Med. Le Satan, c'est ta force déviatrice qui est en toi. Donc, Aïstaklut Arazit, cette vision secrète de la Torah, Yodat Heitev, qu'est-ce qu'elle sait? Elle sait bien en plus. Qui colma chenigle la aïn, eino elahakatse acharon sheba ma'ala. Tout ce que tu vois avec tes yeux, superficiellement, bien entendu, ce n'est que, comme on dit en français, le sommet de l'iceberg. Tu ne vois rien. C'est-à-dire qu'en réalité, tu ne vois qu'une conséquence lointaine, mais tu n'as pas compris le sens de tout ce lien, cette charchère, cette chaîne. C'est comme la mitzvah d'étudier l'histoire. Vous savez que c'est une mitzvah de la Torah. Binu, Shnos, Dor, Vador. Voilà, je viens de vous la citer. Binu, Shnos, Dor, Vador. Étudiez et comprenez avec discernement, c'est-à-dire travaillez votre cerveau gauche. Shnos, Dor, Vador. Comment les générations ont survécu, ont vécu. Qu'est-ce qui s'est passé à cette génération? Nous avons 6 millénaires, nous devons savoir ce qui s'est passé au premier millénaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et ce qui se passe dans notre millénaire, si tu ne sais pas. Akadosh Baruch Hu nous demande, avec notre tête, de regarder l'histoire dans son entité. Vous comprenez bien que lorsque vous lisez une phrase en français, pourquoi les gens ne savent pas lire, par exemple? Les enfants qui viennent de commencer à apprendre à lire, pourquoi ils ne savent pas lire? Parce qu'ils ne lisent qu'un mot à la fois. Et encore, parfois une seule lettre. Une fois que tu es arrivé au bout, tu ne sais même pas le mot que tu viens de lire. Et quand il a fini la phrase, le pauvre, c'est déjà... Tu ne sais même pas ce qu'il a raconté. On est d'accord? Mais c'est exactement pareil. Il faut voir des phrases. En hébreu, ve'elle hamishpatim asher tatsim lifnehem. Si tu n'as pas une phrase entière devant toi avec un début, un sens et une fin, ben tu comprends rien à l'histoire. Une fois dans l'année, on nous demande d'être à ce niveau-là réellement, de voir Pourim. Vous avez déjà vu à Pourim les hommes ouvrir leur Megillah? Pourquoi on a besoin d'ouvrir toute la Megillah? T'as qu'à lire ce que tu as devant tes yeux, et tout doucement, tu roules. On est là, on prend la place de toute la synagogue, à moi tout seul, avec ma Megillah, je fais 3 tables. C'est quoi ce bin? Mais tout simplement, on se dit, tu vois, je te donne un jour dans l'année où tu peux être comme moi. C'est le patron qui parle. Tu peux voir le début, tu peux voir le milieu, et tu peux voir en gros, en plus, tous les enfants de Haman pendus. Extraordinaire. Je vois toute l'histoire. Je suis en dehors de l'histoire et je domine l'histoire. Ça, c'est extraordinaire. Et même si la Megillah d'Esther commence par une vision négative, Vayehi. Vous savez que Vayehi, c'est une notion de tristesse dans la Torah. Pourquoi? Mais tout simplement parce que tu as pris un futur, Yehi, et tu l'as transformé en passé. Vous êtes avec moi? La lettre Vav, c'est une lettre qui peut changer le futur en passé, ou le passé en futur. Si tu la mets devant un futur, elle devient passé. Si tu le mets devant un passé, elle devient futur. Incroyable. Yehi, c'est un futur. Va Yehi, ça devient un passé. L'inverse, haya, c'était un passé, vehaya, ça devient un futur. Or, vehaya, c'est un langage de joie. Pourquoi? Parce que tu es capable de prendre un passé et d'avoir un futur dans ta vie, malgré ton passé. Et parfois, les passés sont difficiles. Ils sont très composés. Alors que quand tu prends un futur et que tu n'arrives pas à vivre ton futur, parce que tu n'as pas de tikva, tu n'as pas d'avenir dans ta tête, tout est noir, et bien tu transformes ton futur yehi en va yehi en passé, là tu es déjà dans le avar. Et donc les sages vont te considérer comme avarian. Quelqu'un qui est fauteur se dit avarian. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il est tout le temps coincé dans son passé, dans son trauma. Il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il ne veut pas s'en sortir, parce qu'il a du mal à s'en sortir, parce qu'il ne prend pas les éléments pour s'en sortir. Donc, tout ce que vous voyez avec vos yeux sans l'abord de ces secrets de la Torah, eh bien, vous ne voyez que le résultat final. Quelqu'un qui veut voir réellement et avoir un da'at, donc une connexion. Maintenant, vous savez où se trouve cette partie dans votre corps. C'est à l'endroit où les hommes mettent le nœud des tfilin. Okay? C'est un endroit extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez régler, je rentre dans un domaine qui n'est pas complètement le mien, n'importe quel traumatisme, il faut toucher cette partie dans votre corps et penser et dire votre trauma. Et à partir de ce moment-là, tu commences à dégager et à sortir toutes les énergies. Umeachar vekol ma shelo itgashem. Étant donné qu'il y a des choses dans ce monde qui n'ont pas encore été au niveau de la matière, c'est-à-dire elles ne se sont pas concrétisées. Encore une fois, en hébreu, regardez comment c'est riche. La pluie, gashem, c'est quoi? C'est une pensée qui s'est cristallisée et qui est devenue une goutte de pluie qui va ensemencer la terre. C'est magnifique. Ça vient du mot Geshem. Mais ce n'est pas la pluie. Ça ne veut rien dire, la pluie. C'est un souffle extérieur, supérieur, qui s'est manifesté. Donc, tout ce qui n'est pas encore manifesté dans notre monde, dans notre existence, Nishar Betzivion Kocho, bien, il est encore en potentiel, on est d'accord? Il n'a pas encore pris corps. Kemo Shehubam Romim, comme il est dans sa source. La Chen Kol Elu Asher Kirvat Elohim Yechpatrim. Donc ceux qui ne veulent pas laisser les choses dans leur potentiel, si vous deviez donner un des noms de Dieu à ce potentiel, c'est quoi? Non. Au contraire, le tétragramme, Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est transcendant. Ce n'est pas encore immanent. Vous avez compris? L'immanence, c'est l'habillage de ce nom dans la nature. Donc, c'est quel nom? Elohim. Et c'est pour ça que c'est au pluriel. Je suis avec vous, vous êtes avec moi ou pas? Je répète, ce n'est pas clair. Le mot Elohim, c'est concrétiser les choses. Le nom Yudke Vavke que vous voyez dans vos livres, c'est tout simplement quand l'absolu béni soit-il est encore dans son potentiel supérieur, qu'il n'est pas encore descendu sur terre. Quand on sort d'Égypte, il y a marqué « Je vous amènerai sur terre, sur la terre d'Israël, pour être pour vous Elohim. » Autrement dit, si vous restez en dehors d'Israël, je ne serai pour vous que Yudke Vavke, c'est-à-dire un Dieu vapeur. Tu veux concrétiser ma divinité, viens sur la terre d'Israël. Ve'aïti lachem le'elohim v'atem tihiyu li le'am. C'est là où se fait le mariage entre moi qui descend et qui vous prend comme épouse. Parce que c'est les forces qui s'habillent dans tous les éléments de la nature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est justement ça le secret. Ve'aya Adonai le Elohim. Qu'est-ce que vous demandez pendant les prières de Rosh Hashanah et de Yom HaKippurim? Adonai hu Elohim. C'est quoi ça? Traduisez ça en français. Dieu, c'est Dieu. C'est quoi? Ça ne veut rien dire. Mais quand tu comprends ça, c'est un cri, c'est une demande. À Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas que tu restes dans ton infinité, je veux que tu descendes, je veux te sentir, je veux te vivre. C'est énorme, c'est extraordinaire, j'ai envie de pleurer. C'est pas par hasard que la Gemara, dans le traité de Avodah Zara, dans le traité de Ketubot 110, dans le traité de Sanhedrin, dit « Kol mishedar bechutz la'aret, domeke mishe'en lo Elohim ». Ce qui n'habite pas en terre d'Israël, qu'est-ce qu'ils n'ont pas ? Eh bien cette qualité, ce Elohim, parce que Dieu là-bas ne descend pas entre guillemets sur terre. Tout simplement parce que c'est lui qui a choisi de descendre sur terre, de ne descendre sur terre que par la terre d'Israël.
Ici, on ne veut pas dire Hachem, mais Elohim.
Non, c'est toujours Hachem. C'est Badaï qui est devenu Elohim. Elohim seul, c'est de la Avodah Zara. Non, non. Mais Badaï. Pourquoi on dit Elohim Acherim? Ah. Ça veut dire quoi? Si tu déconnectes ces éléments de la nature au pluriel, de leur source, Chas v'chalila, c'est une maladie. On n'a jamais dit qu'il faut déconnecter. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est ça la force. Et j'ai commencé mon cours en disant que c'est tout, et non pas des éléments fractales. Quel?
Quel?
D'accord. On est en Israël. Chapitre 5 du Kuzari. Quel, je connais ce pièce. D'accord. Pourquoi? Bien fait. Parce que c'est une très bonne question. Le Vayehi, je suppose que tu parles du Yom HaShmini, c'est ça? Yom HaShmini, du Mishkan.
Non, il y a Yom
HaShmini. Matan Torah. Ok. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on n'a pas reçu la Torah. Non, ce sont des tentatives divines, si tu veux, prévues par l'infini, où la lumière est tellement difficile de pénétrer notre existence qu'elle vient par couche. Vous savez que ce qu'on a lu Shabbat, Matan Torah, bien, ouvrez la Gemara dans le traité de Shabbat à la page 85, il y a marqué que les enfants d'Israël se sont sauvés du mont Sinaï 12 000, c'est-à-dire presque 10 kilomètres, de là où ils étaient. Et les sages de nous dire qu'Emotinok Haboreach mi Bet Sefer, comme un bébé qui se sauve de l'école. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Parce que l'infini descend sur ce monde et va me demander de changer ma façon de vivre. Je n'ai plus la façon de vivre comme je vivais jusqu'à maintenant. Maintenant, je suis responsable. On me demande d'être hors la goïm, mamlechet kohanim vegoï kadosh. C'est une responsabilité. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas tellement heureux de jouer ce rôle. On a envie d'être tranquille, chacun dans son petit coin, étudier sa petite gmara, son petit... T'as envie d'être responsable des nations du monde, de devenir une lumière pour les nations. C'est notre rôle, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Encore une fois, on peut se mentir toute la vie. Mais moi, je regarde ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. J'essaye d'être le plus honnête possible. Faut arrêter de nous raconter des histoires. Alors, j'étudie la Torah sérieusement pour savoir ce que je veux. Alors étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Le déluge, c'est quoi? C'est la première tentative divine de descendre sur terre. Les mêmes expressions que le don de la Torah, c'était là-bas au déluge. Les cheminées du ciel se sont ouvertes. 40 jours comme la 40 jours de Torah qui est descendue. Tout est pareil. Seulement là-bas, encore une fois, le monde n'est pas encore fait. Alors vous allez me dire, alors Dieu s'est trompé? Non! Il met à chaque fois une graine de plus, une graine de plus, jusqu'au moment où tu acceptes. Quand est-ce que tu acceptes? 1000 ans plus tard, hein, histoire de pourrir. Que je vous ai cité tout à l'heure, dans la Megillat, écrit à la fin, Il fallait 1000 ans pour que les enfants d'Israël reçoivent ce qui leur a été donné 1000 ans auparavant au mont Sinaï. Autrement dit, au moment où le rave parle et l'élève comprend ce qu'il est en train de raconter, il ne se passe pas 1000 ans, il se passe 40 ans. C'est une gmara, mais faut réchef. Il y a 40 ans de distance, de décalage entre les paroles du rave et l'élève qui comprend. Mais entre Akadosh Baruch Hu et nous, 1000 ans. Ça fait peur. Mais on a reçu. Donc, il y a ici quelque chose de très important. Les kol elu asher kirvat Elohim yechepatsun. Je ne suis pas en train de vous dire que ceux qui veulent un Dieu virtuel. Non. Kirvat Elohim, qu'est-ce que ça veut dire kirvat Elohim? Je veux sentir la présence divine dans ce monde. Donc, le nom de Elohim ici est précis. Ce n'est pas des petits-enfants qui écrivent ces textes. Ce sont des sages de la Kabbalah. Chaque texte est réfléchi, pesé, chaque mot. « Vezachou les habits » Regardez maintenant. « Les habits » Vous êtes avec moi, c'est bien. Au début, on a commencé par « les histakel » Et maintenant, « Vezachou les habits » C'est-à-dire un regard du haut vers le bas. Autrement dit, tu t'es tellement élevé parce que maintenant tu as une présence divine, que l'expression maintenant c'est pas les histakel, ni les habits. Al kol davar ve davar be histaklut razi. Regardez bien. Parce que tu as regardé du bas vers le haut au niveau des secrets, tu es arrivé tellement haut que tu peux voir maintenant l'existence tout entière du haut vers le bas. Magnifique, magnifique. Non, je parle tout seul, c'est pas grave. Je me fais des petits kiffs comme ça. Vous savez que en étudiant, je pleure d'émotion parce que quand vous comprenez, parce que tu peux passer devant un texte de Gemara, de n'importe quoi, très rapidement. Mais vous croyez que les gens, cette sagesse de nos sages, que leur mémoire soit bénie, vous croyez que c'est des textes comme ça balancés, oui, il était au Mont Sinaï, on va discuter quel jour c'était, qu'est-ce que tu dis toi, moi je dis comme ça, et toi qu'est-ce que tu dis? Ou bien mais... Réouim Hema, ces hommes-là, ces femmes-là, ceux qui ont cette possibilité de regarder, ils sont Réouim, qu'est-ce que ça veut dire Réouim? Non, méritants. Méritant. Shetitzlach alehem ruach hashir milma'ala. Qu'est-ce qu'ils reçoivent ces hommes-là, ces femmes-là? Le souffle du chant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le souffle du chant? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. C'est quelque chose qui est lié à la fin des temps. Parce qu'on n'a pas encore chanté. Ce qu'on a chanté au Mont Sinaï, avant le Mont Sinaï, à la sortie d'Égypte, le septième jour de Pessah, c'était quoi? Az Yashir Moshe et Ha Shira au féminin. Regardez, encore une précision. Si vous ne comprenez pas, vous dites, bon, Shir, Shira, pareil. Non, c'est pas pareil. À la fin des temps, ce sera Shir Hadash à Shirala. Au début des temps, sortie d'Égypte, c'est le début des temps. Avant, c'est de la préhistoire. L'histoire commence à la sortie d'Égypte. Eh bien, c'est un chant au féminin. Le chant au masculin, c'est la fin des temps. Qu'est-ce que c'est chant au féminin, chant au masculin? Eh bien, chant au féminin, c'est les vapeurs que je monte, moi, en tant qu'homme, du bas vers le haut pour recevoir, pour me rapprocher. Et le chant au masculin, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu me rend. De lui vers nous. Nous sommes une femme et lui est un homme dans ce rapport. Il y a aussi une notion de père et de fils, mais elle est vite dépassée. La notion de père et de fils, elle est très vite dépassée. Parce que entre père et fils, il n'y a pas de choix.
J'ai un amour le père, il a toujours protégé ses enfants.
Mais il n'y a pas de choix. Tu ne peux jamais te déconnecter. Alors qu'entre un homme et une femme, à chaque fois que tu es avec elle, tu choisis d'être. C'est autre chose. Et c'est pour ça que le plus haut niveau de notre lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est ni Avadim, bien entendu, ni Banim, mais Knesset Israël Bat Zugo, chez l'Akadosh Baruch Hu. Assemblée d'Israël, l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le plus haut niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans un lien voulu et répété. Exactement, épouse.
Donc il est notre propriétaire.
Exactement. Il nous a acheté. C'est une acquisition, entre guillemets. D'ailleurs, à chaque fois que tu dis qui kar ish isha, l'ikuchin dans le langage de nos sages, c'est une acquisition. Mais dans le sens positif, pas péjoratif du terme. D'ailleurs, se marier en hébreu, ça se dit faire monter la femme. Nisuin. La fête. Tout à l'heure, je vous ai dit Baïssa, Abraham et Einar. Pardon ? Il y a beaucoup de séparation. Toute l'histoire de Shir HaShirim, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Je me lève, il est parti. Il vient, je dors. Toujours des ratés. Jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, ces retrouvailles vont avoir lieu. Et Bezrat Hashem, aux yeux des nations du monde. La fin des temps, c'est maintenant. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire demain ou après-demain. Hein. On est en train de le vivre. En Bretagne. On est en train de le vivre. Les nations du monde aujourd'hui qui ouvrent les yeux voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ici, entre guillemets, dans la normalité humaine. Comment ça comprendre les gens ? Shetitlach aleim ruach hashir milmala. Et donc c'est ce qu'on appelle, on a déjà amorcé le sujet, ces gens-là vont devenir, c'est quoi le chant qui va leur descendre sur la tête ? Exactement, c'est la prophétie, c'est ce qu'on appelle la névoie. On est en train de redevenir prophète, Rabotai. Ça va commencer par les petits-enfants qui vont commencer à avoir des visions que vous ne comprenez même pas. Ils sont d'un nouveau système. Vous ne savez même pas qui sont vos enfants. Ce sont des neshamot d'un autre monde. Si vous deviez leur donner aujourd'hui un titre, ce sont des kabbalistes. Vos petits-enfants, là, que vous croyez à la maison. C'est énorme. C'est ce qu'on appelle Zan Acher. C'est une autre graine. Plus encore, et je répète les paroles d'un de mes maîtres, le Rav Getz, Alav Shalom, qui était le grand kabbaliste de la yeshiva de Beth El à Jérusalem, plus encore ceux qui sont nés après la guerre des six jours. Il disait le Rav, tous ceux qui sont nés après la guerre des six jours ont une neshama qui est un autre degré, ce sont des neshamos qui appartiennent déjà à la période messianique. Mais c'est encore une parenthèse. Shehi Kula Emet. Et là, ce chant-là, c'est quoi ? C'est une vérité. Pourquoi ? Parce qu'il prend en compte la totalité. Rappelez-vous des lettres Emet, c'est Aleph Mem et Tav. C'est-à-dire la première lettre, la dernière lettre et la lettre du milieu. Donc je viens de former un triangle. Ça, c'est le MS. Le MS, c'est encore une fois, comme je disais au début de mes propos, une vision globale. Si tu ne vois que fractalement, eh bien tu es dans le Sheker. Sheker, c'est quoi comme lettre ? Trois lettres qui sont collées dans l'alphabet. Shin, Kouf et Resh. Donc il n'y a pas plus grand mensonge que de prendre un extrait de quelque chose et d'en faire l'essentiel sans avoir pris en compte le début, le milieu et la fin, totalité. Sinon c'est un mensonge. Vela sheker en radlaï. Regardez, je répète encore et je reviens. Le mensonge, c'est celui qui n'a pas de jambes, donc il a seulement une tête. Voilà. Comme le serpent. Vous croyez que c'est par hasard que le serpent n'a pas de jambes ? Pourquoi sa punition c'était de perdre ses jambes ? Parce qu'il a fait perdre les jambes de l'humanité. Parce qu'au lieu que l'homme pense et soit ce qu'il pense, il y a un décalage énorme entre sa pensée et ce qu'il est réellement. Kodesh Kodashim Lachem. Et là, attachez vos ceintures. Que veut dire Kodesh Kodashim? Arrêtez de me dire des mots en français. Hein. Saint des saints, tous ces machins, j'en peux plus. J'en peux plus. Tous ces trucs-là, ça ne veut rien dire. Hein? Kodesh Kodashim, c'est... Quelle est la différence entre Kodesh et Kodesh Kodashim? Voilà. Alors, ce que tu viens de dire, c'était justement Shlok. Kodesh, c'est séparé. Kodesh Kodashim, c'est relié avec toute la matière. Vous avez compris? Ça veut dire, le Kodesh, c'est tout simplement les parties supérieures, la spiritualité, machin. Kodesh Kodashim, c'est le lien. Où se trouvaient les deux chérubins qui avaient un lien entre eux? Dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que qu'est-ce que prend en compte le Kodesh HaKodashim? Et le Kodesh et le Chol. C'est ça Kodesh HaKodashim. Vous avez compris? Apprenez, ce sont des je suis en train de vous donner des axiomes de base. Si vous ne connaissez pas ces secrets, vous ne pouvez pas étudier. Parce que vous allez répéter, Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints, il est rentré dans le Saint des Saints. Ah, Saint des Saints, ça fait plus que ça. C'est comme en hébreu, Kodesh ou Koidesh. Ah, Koidesh, ça fait plus. Ou c'est un, ce sont des Gdolim en Torah. Non, Gdolim. Ah, si c'est Gdolim, je ne peux plus le rattraper. Gdolim, c'est comme ça. Alors, il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter de se déguiser. Il faut comprendre ce que la Torah nous dit. Il y a ici un décodeur à acheter. Je vous ai déjà dit, si vous voulez ce décodeur, je le vends. Et si vous n'avez pas ce décodeur, vous allez voir toutes les missions toraniques. Kodesh Kodashim Lachem, c'est-à-dire Shilum de Ruach et de Kodesh, de Ruach et de Chomer. Ou mitorze, et depuis ce degré-là, mit'ale gamachelek sheitgashem ba'olam ha'asiyah. Maintenant, tu peux élever ce qui a été manifesté, concrétisé dans le monde de l'action. C'est-à-dire que même un verre d'eau va devenir quoi? Aussi Kodesh que le Kodesh supérieur. Alors toi, tu te dis non, ça sert à rien ce verre d'eau. C'est de la nature, tu es trop petit, tu es trop bas. Reste en haut, ne mange pas, ne bois pas. Pas du tout. Ne mange pas, ne bois pas, c'est pas un idéal. C'est Kippourim. Kippourim. Vous savez que ça n'existe pas Kippour. C'est Kippourim. Arrêtez de dire Kippour au singulier, ça n'existe nulle part. Yom Kippour, ça n'existe pas. Yom HaKippourim. Pourquoi? Pas de Kippourim, Kaf. Au début d'un mot en hébreu, veut dire « comme ». Ça veut dire que « qui pourrime » il a un seul rêve. Quand je serai grand, je veux devenir « pourrim » comme « pourrim ». Donc je bois. « Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro » Le plus grand rêve de Yom HaKippourim, c'est de devenir « pourrim ». Pourquoi? Parce qu'à « pourrim » je peux atteindre plus encore que Yom HaKippourim, en buvant, en mangeant, en me réjouissant, en m'habillant, avec plein de couleurs. Là-bas, je dois être quand même mort. Je suis tout blanc. C'est la mort. Yom HaKippourim, ça s'appelle Yom Shvitat He'atzor. Comme ça appelle le Rambam Yom HaKippourim. C'est-à-dire le jour de l'annulation de l'être. Donc tu te t'habilles d'un linceul. Et tu vas à la synagogue, je rigole pas, c'est comme ça. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, donc tu n'es plus dans ce olam. Ok? Pour ne pas qu'on soit quoi? On est d'accord, mais qu'est-ce que c'est la vraie vie? C'est quoi la vraie mitzvah de Yom HaKippourim? Je vais vous choquer. C'est le repas d'après Yom HaKippourim, vous saviez ça? De rentrer à la maison et de revenir sur terre, mais cette fois-ci, avec une bonne approche. Ça, c'est le secret. Quand est-ce qu'on faisait une fête au Kohen Gadol? Quand il rentrait au Saint des Saints ou quand il sortait? Quand il sortait du Saint des Saints. Pourquoi? Ma Encore une fois, qu'est-ce que c'est le blanc? C'est l'annulation aux valeurs de l'éternel, mais en s'arrêtant. C'est pas dingue. Quand le Kohen il rentre là-bas, il se met quel vêtement? Blanc. Quand il sort, il se met quel vêtement? De couleur. Or, qui est la plus grande des couleurs, c'est le rouge. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on se dit que le but, c'est pas de rentrer. Le but, c'est de sortir. Et si tu ne sais pas sortir, tu es coincé. Akadosh Baruch Hu est obligé de taper dans l'arche de Noé pour lui dire « Semina Teva, sors de ta boîte, il y en a marre maintenant. » Je crois que c'est des versets comme ça anodins. Si la Torah gaspille un verset pour dire « Semina Teva », c'est une leçon pour moi. Sors de ta boîte. D'ailleurs, c'est devenu une expression. Mikhout la koufta.
Il y a une peur en nous avec un manger de mort.
Pardon?
C'est pour ça qu'on est content de revenir à la maison.
Bravadan. Bravadan. Mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Et en plus de ça, on te dit de toucher du bois. Parce que tu commences à préparer la soukha, mais pas comme les autres. C'est-à-dire, chaque mot saïoma qui pourrime, tu touches du bois. Tu es obligé de te mettre à fabriquer sa soukha. Pourquoi? Pour redevenir dans le monde de la nature, du verre. Et pas rester là-bas. Bien, je sais que religieux se dit en français pieux. Enfin, pieux, c'est-à-dire que tu ne bouges plus. C'est pas ça. Emma, je suis israélien, donc je bénis le jour et la ville qui a vu, qui m'a vu naître. Je n'ai pas dit le contraire, mais je suis un enfant d'Israël. D'accord? Donc il y a une identité d'Israël. Il y a fait. Et si vous reprenez, vous savez ce que vous me rappelez? Vous savez ce que vous me rappelez? Ceux qui disent qu'il faut revenir aux frontières de 67. Ben. Pourquoi votre passé il s'arrête à ce que vous êtes?
Parce que mon passé c'est moi.
Non.
Mon avenir c'est les petits enfants.
Non. Votre passé c'est pas. Mais votre passé il est beaucoup plus lointain que la France. Vous étiez ici au début. C'est ça votre passé.
Je suis là. C'est que j'ai compris.
Ben, d'accord. Mais ne me dites pas que le passé c'était la France. La France c'était un passage. Je suis d'accord. Je suis pas en train de renier. Mais c'est pas notre passé, notre véritable passé, il est d'ici. On est des Hébreux, on vient du pays des Hébreux. Alors on a fait le tour du monde, ok? Je suis obligé de vous parler en français, ok? Mais, on aurait pu immédiatement tourner à l'hébreu. Je vois déjà les têtes comme ça, ne vous inquiétez pas, on continue. On continue, ne vous inquiétez pas. Donc, même le monde de la matière la plus vile, celle que tu as négligée dans ta vie, tu t'aperçois qu'en réalité, c'est du Kodesh, il n'y a pas de Chol dans ce monde. Eretz Yisrael, c'est du Kodesh. Même lorsque tu vas travailler. Et maintenant, je vais juste amorcer, parce qu'on est arrivé déjà à la fin de l'heure, pour reprendre les paroles du Rav Kook. Hamachshava Alvar Eretz Israël. La pensée, concernant la terre d'Israël, c'est Irak Eretz Tritsonis, qui est donc un élément superficiel seulement. Kedei Ha'amadat Agudat Ha'uma, pour que la nation tout entière se rejoigne et fasse un grand club. Même quand elle vient comme protection de tout le judaïsme qui se trouve encore en exil, pour qu'il y ait encore de quoi vivre et garder ses spécificités, sa nature, et avoir de la émouna, et de la ira, de la crainte, vers chizouk chez la mitzvot amasiyot, pour renforcer les mitzvot concrètes, besura haguna d'une manière bonne, équilibrée. En la haprihara uilekiyum. Elle ne peut pas, elle n'a pas le fruit nécessaire pour l'existence. Autrement dit, ne regardez pas Eretz Israël comme un moyen dans lequel vous vous êtes tous retrouvés ici pour arriver, si Dieu veut, à la venue du Mashiach. C'est pas ça. Qui a yesod azeh ou raoua. Parce que si c'est ça que tu penses, eh bien, c'est un fondement qui ne tient pas la route, qui est très faible, qui va se casser la figure. Be'erech Eitan, par rapport à ce que moi je vais vous proposer d'étudier, nous dit le Rav, chez l'Eretz Israël, la cause de chez l'Eretz Israël, ce que c'est véritablement Eretz Israël. Donc, ne tombez pas dans le piège que Eretz Israël est un moyen. Regardez tous les gants et tous les parapluies que le Rav ouvre avant de commencer à nous dire ce que c'est. Il nous dit, ce n'est pas, parce que tous ces éléments-là, on aurait pu croire que c'est. Je te dis non, c'est pas encore ça. Tout ça, ce sont des fondements qui peuvent se casser la figure si tu ne comprends pas le véritable fondement de Eretz Israël qui s'appelle Eitan HaKodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Eitan? Une puissance stable du Kodesh chez l'Eretz Israël. C'est-à-dire que la terre d'Israël, c'est une stabilité de qui? Sakadosh Baruch. En réalité, on ne parle que de lui. C'est lui qui devient stable dans ce monde en passant par nous, qui sommes là. Donc nous sommes les garants de la stabilité divine sur terre en venant sur la terre d'Israël. La suite au prochain épisode.